Les colloques du Collège de France.
Eh bien donc, nous allons reprendre. Merci à toutes et à tous. Et j'ai le grand plaisir de donner maintenant la parole à William Marx, qui est critique, essayiste, historien de la littérature et surtout professeur au Collège de France, où il occupe la chaire de littérature comparée et où il nous apprend à vivre dans la bibliothèque du monde. Tel était le titre de sa leçon inaugural. Il a écrit, vous le savez, sur la tragédie grecque, sur T.S. Eliot, sur Cervantes, et son dernier livre est un collectif co-dirigé avec Mathilde Manara aux éditions du Collège de France, Valérie au Collège de France. Il a été aussi l'éditeur des cours de Valérie au Collège de France, et sa communication, la fabrique de l'intelligence, du mot à la chose.
Merci, cher Patrick. C'est pas tout à fait mon dernier livre, parce que mon dernier livre est en anglais. C'est Libraries of the Mind, hein, chez Princeton University Press, mais peu importe. Oui, je vais être très différent peut-être des prédécesseurs, et je vais être assez concret sur le mot même d'intelligence. En 1870, Hippolyte Taine ouvrait ainsi son monumental traité de l'intelligence. Si je ne me trompe, on entend aujourd'hui par intelligence ce qu'on entendait autrefois par entendement ou intellect, à savoir la faculté de connaître. Du moins, j'ai pris le mot dans ce sens. Autrement dit, si l'on comprend bien ce que dit Taine, l'intelligence est un mot d'époque, voire un mot qui fait époque. Et c'est la question que je vais poser ici. Pourquoi ce mot-là ? Comment expliquer le triomphe de l'intelligence, du mot intelligence, contre ses concurrents potentiels dans le lexique de la psychologie, des sciences naturelles, de la philosophie et jusqu'à la politique, comme on le verra. Car l'intelligence n'a pas toujours existé, du moins elle n'a pas toujours existé sous ce nom. Or, nommer, c'est identifier. Parfois, un terme nouveau permet de conférer une réalité à quelque chose qui n'était pas visible. En l'occurrence, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Nous verrons que le terme d'intelligence a permis de regarder différemment, sous un autre angle, une réalité qui portait d'autres noms et qui a acquis, de ce fait, des potentialités nouvelles. Alors, l'enquête lexicale vaut d'autant plus la peine d'être menée que le même mot, en fait, se retrouve dans nombre de langues européennes, excusez-moi. En français, en anglais, vous avez effectivement le même mot, hein, intelligence. L'italien intelligenza et l'espagnol inteligencia ont strictement la même origine que le mot français, donc on retrouve dans le mot anglais. L'allemand connaît à la fois le mot français, hein, sous la forme intelligenz, et un doublon, comme souvent, de formation germanique, Verstand. Et pour désigner, du reste, l'intelligence artificielle en allemand, et sans doute sous l'influence de l'anglais, l'allemand recourt au terme d'origine française « künstliche Intelligenz ». Le mot français « intelligence » vient du latin « intelligentia », qui est lui-même formé à partir du verbe « intellegere », qui signifie « comprendre ».« Intellegere », c'est un composé du verbe « legere », dont le sens est « cueillir, ramasser, choisir, et qui du reste a aussi pris, plus tardivement, le sens de lire en latin. Même si, à l'époque classique, plus personne ne faisait vraiment le lien entre le legere, cueillir, et le legere, lire. Et notre verbe lire, lui-même, en français, vient de legere. Intellegere, c'est en fait interlegere, avec le préfixe inter. C'est choisir entre différents objets par l'esprit, d'où discerner, comprendre, connaître, s'apercevoir. Dans son cours de poétique, Paul Valéry aimait à rappeler que tous les verbes désignant des actes mentaux représentaient à l'origine une action physique. Il n'était pas le premier à le dire. Et c'est le cas ici. Le préfixe inter, a pour effet de transposer et de fixer dans le domaine de l'action mentale le sens physique du verbe legere, qui signifie en fait ramasser. Par la grâce de ce préfixe, intellegere perd toute dimension physique et se cantonne à l'action mentale. Quant au substantif intelligentia, il est dérivé du participe présent intelligens, qui signifie comprenant, auquel s'ajoute le suffixe substantivant ia, déjà, afin de désigner l'acte de comprendre, la compréhension ou la connaissance. Et c'est le sens 1, hein, c'est le premier sens de ce terme intelligentia. Ce substantif, on le rencontre déjà très tôt, hein, chez le poète comique Terence, dans la première moitié du IIe siècle avant notre ère. Mais les exemples les plus nombreux se trouvent chez Cicéron. Decaiarcus quidem et aristoxenus quia difficilis erat animi, quid aut qualis esset intelligentia, nullum omnino animum esse dixerunt. Parce qu'il était difficile de concevoir ou de comprendre ce qu'était l'âme et de quelle nature elle était, Dicéarque et Aristoxène nièrent entièrement son existence. Ce qui est intéressant d'un point de vue grammatical ou lexical dans cet exemple, c'est que intelligentia, on le voit, fonctionne. Je m'adresse plutôt aux latinistes ici parmi vous, je m'en excuse. Intelligentia fonctionne comme un pur équivalent substantivé d'intelligere. Le substantif ici se construit à la fois comme un substantif, avec un génitif objectif, animi intelligentia, la compréhension de l'âme, ce qui est l'équivalent de animum intelligere, comprendre l'âme, mais aussi se construit comme un verbe, avec une interrogative indirecte, quid aut qualis esset. Littéralement, si on traduit littéralement, c'est la compréhension de l'âme, ce qu'elle est et de quelle nature. Et vous voyez qu'ici, le substantif intelligentia a gardé presque toutes les caractéristiques d'un verbe par ses constructions. C'est vraiment ce qu'on appelle un déverbal. Alors, de l'acte de comprendre, désigné par intelligentia, on glisse aisément au deuxième sens. C'est la faculté de comprendre. Comme ici encore, chez Cicéron, c'est pourquoi, là je dis purement en français, c'est pourquoi le Dieu enferma l'intelligence dans l'esprit et l'esprit dans le corps. Alors en fait ici on est dans une traduction du Timée de Platon par Cicéron, et par intelligentia, Cicéron traduit le substantif grec logismos, enfin logismon ici, à savoir le raisonnement, la réflexion, bien la faculté de raisonner. Du reste, entre parenthèses, les deux termes, logismos et intelligentia, ont la même racine indo-européenne, leg, log. Enfin, Cicéron n'en était sans doute pas conscient. Mais vous voyez que dans cette phrase-là, pour Cicéron, soit que le Dieu enferme dans l'esprit l'acte de comprendre, ou bien soit qu'il y mette la faculté de comprendre, on voit, c'est à peu près du pareil au même. Le sens ne diffère guère. En revanche, dans cet autre exemple de Cicéron, le sens de faculté est beaucoup plus sensible, c'est tiré de l'invention oratoire. La mémoire est ce qui permet à l'esprit de retrouver ce qui a été. L'intelligence est ce qui lui permet de reconnaître clairement ce qui est. Alors ici, là, clairement, intelligentia désigne une faculté, hein, présentée comme un instrument utilisé par l'esprit. Alors il y a même d'autres exemples, hein, même dans la Vulgate, c'est pour Thomas Römer ça, hein, qui a donné au coq l'intelligence, au coq ou dit gallo, ou au gaulois, ou au français, peu importe, ça c'est un jeu de mots latin. Mais ce que vous voyez ici, c'est que ces deux sens du mot latin, intelligentia au sens d'acte de comprendre d'un côté, ou bien au sens de faculté de comprendre de l'autre, se sont retrouvés dans le mot français intelligence. Et longtemps du reste, dans l'usage le plus courant du français, dans le français le plus ancien, disons, le sens verbal concret, c'est-à-dire le premier sens, a prévalu. Du reste, par métonymie, c'est une autre dérivation du sens, l'intelligence désigne les êtres qui sont dotés d'intelligence. Au Moyen-Âge, on parle des anges comme d'intelligence divine ou d'intelligence spirituelle. On le dit en français, on le dit surtout en latin, du reste. Dans le domaine profane, on le dit encore aujourd'hui, on dit de telle personne qu'elle est une grande intelligence ou une intelligence supérieure. Et si on le dit d'une personne, on le dit aussi d'une machine. Quand on parle couramment d'intelligence artificielle, en fait, c'est le plus souvent par métonymie, pour référer à des machines qui sont dotées d'une intelligence, d'une forme artificielle d'intelligence. Si je dis « j'ai utilisé une IA pour écrire ma conférence », ce qui n'est pas le cas, mais peu importe, alors on devrait dire en fait strictement « j'ai utilisé une machine dotée d'IA pour écrire ma conférence ». Et cette transformation-là, métonymique, elle n'est pas anodine. Cette personnification métonymique de la faculté artificielle, qui est assez caractéristique de notre relation aujourd'hui aux outils d'IA générative, avait été en quelque sorte, vous le voyez, annoncé dès les prémices de la théologie chrétienne. En quelque sorte, les IA sont devenus les anges du XXe siècle, du XXIe siècle. Et paradoxalement, ce concept de post-humanité est ancré dans une mythologie très archaïque. Les anges, le golem, Talos, voire les jeunes filles d'Héphaïstos, qui sait. Alors, je mentionnerai aussi en passant qu'en anglais, le mot « intelligence » a aussi développé, à la fin du XVIe siècle, le sens de connaissance ou d'information, d'où celui d'obtention de l'information, et enfin celui de service ou d'agence dédiée à l'obtention de l'information, par exemple le fameux MI6 britannique, Military Intelligence Section 6. Et du reste, au début du XVIIe siècle, en français aussi, on parle d'intelligencier, c'est-à-dire d'espion. Et puis il y a un troisième sens, un peu plus lointain de pour notre sujet, mais qui n'est pas sans intérêt, qui est le fait qu'en français, l'intelligence désigne aussi la compréhension, l'accord ou la relation secrète existant entre des personnes. On dit que ces personnes-là sont en intelligence ou en bonne intelligence. Par exemple, en 1567, Charles IX publie des lettres patentes par lesquelles tout gentilhomme et autres ses sujets, qui sont de l'intelligence des perturbateurs du public, sont admonestés de se départir d'iceux et se retirer par devers sa majesté sur, etc., dans 3 jours après la notification de ses présentes sur peine de confiscation de corps et de biens. L'intelligence ici est vue de manière très péjorative, quasiment comme un crime. On le voit donc, l'intelligence, ce terme en tout cas, dépasse le cadre du raisonnement pur comme capacité mentale d'un individu pour désigner une qualité ou une relation spécifiquement sociale à l'échelle d'un groupe. Résumons. Le terme intelligence a 2 sens fondamentaux principaux plus 1 sens dérivé spécialisé. Premier sens, c'est l'acte de comprendre, la compréhension, la connaissance. Deuxième sens, c'est la faculté même de comprendre, et par métonymie, tout être doté de cette faculté. Troisième sens, l'accord entre des personnes. Bon, ce sont les sens principaux. Le sens qui nous intéresse ici, dans ce colloque, c'est surtout le deuxième. C'est celui qu'on retrouve dans IA. Mais le passage, et je continue encore mon petit excursus grammatical, le passage du sens 1 au sens 2 change en fait la construction du terme « intelligence ». Si vous regardez les livres qui sont à la Bibliothèque nationale depuis l'invention de l'imprimerie, vous verrez que innombrables sont les livres et manuels qui proposent d'aider à l'intelligence des auteurs antiques, à l'intelligence des poètes, à l'intelligence des saintes écritures, d'une langue ou d'une discipline telle que les mathématiques ou le droit. Et ici, intelligence signifie compréhension, hein, c'est le sens 1. Et le complément de nom a une valeur de génitif objectif, pour désigner ce qu'il s'agit de comprendre. En revanche, lorsqu'intelligence réfère à une faculté, le génitif alors devient subjectif. Là, on parle de l'intelligence d'une personne donnée, d'un animal ou, plus récemment, d'une machine. Et ça désigne la faculté mise en œuvre par cette personne, cet animal, cette machine, en tant qu'agent. Or, le passage du génitif objectif au génitif subjectif n'est pas sans conséquence. En effaçant le génitif objectif, c'est-à-dire l'objet même de l'acte de comprendre, le terme d'intelligence, employé au sens de faculté, laisse entendre que la même faculté se déploierait indifféremment dans tous les contextes. Edgar Degas, le peintre, appuyé sur des constatations de bon sens, posait crûment la question. Le jour on a commencé d'écrire « intelligence » avec un « i » majuscule, on a été foutu. Il n'y a pas l'intelligence, on a l'intelligence de ceci, de cela. Il ne faut avoir d'intelligence que pour ce qu'on fait. Et en vérité, il faudrait attendre scientifiquement les travaux de Charles Spearman au tout début du XXe siècle pour montrer expérimentalement une corrélation dans les aptitudes de tout individu à réaliser des tâches diverses, ce que Spearman appelle le facteur G, qui mesure l'intelligence comme capacité générale et lui donne une visibilité concrète en dépit des cas particuliers de l'utilisation de l'intelligence. Or, et c'est mon deuxième point en quelque sorte dans cette étude lexicale et sémantique, on aurait très bien pu se retrouver avec d'autres termes à la place d'intelligence. Il faut en effet se méfier de l'histoire d'un terme considéré isolément. Vu d'aujourd'hui, comme je viens de le rappeler, l'étymologie semble tracer une évolution évidente, difficile à contester. En réalité, dans le langage réel, les termes évoluent en concurrence avec d'autres qui ont des significations proches. Et pour désigner la capacité humaine à penser, à raisonner, à comprendre, d'autres termes ont aussi été utilisés en philosophie et en psychologie, parmi lesquels deux dominent, en tout cas c'est sur cela que je tirais l'attention, la raison d'un côté et l'entendement de l'autre. Alors, bien des motifs peuvent expliquer la spécialisation des termes. Raison a une acception très très large. Le terme désigne aussi bien la faculté de penser, voire l'esprit en général, qu'un outil particulier de la pensée, appuyé d'abord sur le raisonnement et sur le calcul, ce qui est le sens étymologique. Le terme entre du reste, raison, entre dans des jeux d'opposition. La raison s'oppose au cœur, elle s'oppose aux émotions, elle s'oppose aux passions. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, dit Pascal. Et tous ces jeux d'opposition le spécialisent encore plus et lui attachent des connotations qui bornent son usage. La raison, par exemple, est considérée, c'est une connotation, elle est considérée comme froide, comme abstraite. Elle impose sa rigueur. Quant à entendement, c'est un terme qui a un usage plus nettement et plus strictement philosophique et qui a été très fréquent, notamment au XVIIe siècle, pour désigner la faculté de comprendre. Et ici aussi, les connotations sont puissantes. Dans le cartésianisme triomphant, l'entendement s'oppose à la sensation, s'oppose à l'imagination, s'oppose au corps en général. Si l'on regarde du côté des contraires, des antonymes, pour parler de manière pédante, entendement n'a pas d'antonyme. Raison a un antonyme, c'est la folie. La folie s'oppose à la raison. Intelligence a un autre antonyme, différent de celui de raison, c'est la bêtise. Et du reste, de façon significative, la bêtise renvoie à l'animalité, avec une question du reste. Si les hommes peuvent être bêtes, pourquoi les animaux ne pourraient-ils être intelligents ? L'opposition de la raison et de la folie, des deux antonymes, elle est radicale. Elle n'admet pas de moyen terme. On est soit raisonnable, soit fou. Il n'y a pas de moyen terme. En revanche, de l'intelligence à la bêtise, on passe par une infinité de gradients. Alors qu'on n'a pas plus ou moins de raison, on peut être doué de plus ou moins d'intelligence. Et je crois que cette capacité du terme intelligence à accepter la gradation, cette flexibilité quantitative, cette quantifiabilité, a sans doute participé à son succès dans le discours scientifique. Il est intéressant d'observer la fréquence d'usage en français des termes entendement et intelligence depuis le XVIIe siècle. Alors je laisse de côté raison qui est beaucoup trop polysémique et qui ne permet pas une comparaison aisée. Vous voyez ici, j'ai utilisé Google Books and Grammar Viewer avec toutes les limites de l'exercice, mais quand même. Vous voyez ici les graphes des fréquences des termes intelligence et entendement. Vous voyez qu'au XVIIe siècle, intelligence fait au moins jeu égal avec entendement fait au moins jeu égal avec intelligence, voire lui dame le pion. Mais à la fin du siècle, entendement perd inexorablement du terrain et on assiste à partir du XVIIIe siècle au triomphe progressif de l'intelligence, avec du reste le pic au milieu du XIXe siècle. Alors, ça dit, il faut vraiment une précaution de lecture de ce graphique. Parce que jusqu'au XVIIIe siècle inclus, le terme d'intelligence est largement utilisé, comme on l'a dit, pour désigner la compréhension d'une chose particulière, la compréhension d'une langue, d'un texte. Et ça correspond au moins à la moitié, voire peut-être les trois quarts des occurrences. Mais c'est plus le cas au XIXe. Au XIXe, ce sens-là vraiment perd beaucoup de terrain. Donc la défaite de l'entendement, si je puis dire en tant que terme, est un peu moins spectaculaire qu'elle ne paraît sur le graphique. Cela dit, comme vous le voyez, il y a un pic impressionnant ici, dans l'usage du terme intelligence, qui se produit au milieu du XIXe, nous y reviendrons. Et depuis 20 ans, on voit aussi qu'il y a une hausse des usages, sans doute due, du reste, aux problématiques de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi l'intelligence a-t-elle triomphé de l'entendement, si je puis dire ? Je crois tout simplement que c'est une question de grammaire. L'entendement et la raison sont des substantifs absolus. On ne peut pas mettre de complément du nom à ces deux termes. On ne dit pas « j'ai l'entendement de quelque chose ». Inversement, l'intelligence suppose toujours un génitif qui n'est pas toujours exprimé du reste. Elle est toujours « intelligence de quelque chose ». L'intelligence est un terme relationnel et également un concept relationnel. Elle met en relation un être avec son environnement. C'est une faculté d'adaptation. L'intelligence est transitive. Elle a un rapport avec le milieu. C'est une action devenue ensuite une capacité à cette action. Tandis que l'entendement est une pure capacité de réflexion limitée à l'être humain, l'intelligence a un caractère beaucoup plus concret, matériel, précis, avec une dimension morale et sociale. Alors, cette étude sémantique aide à comprendre pourquoi le terme d'intelligence a correspondu à un moment particulier de l'histoire européenne des idées. Avant la fin du XVIIe siècle, l'intelligence n'est guère un problème. Dieu a mis en nous l'entendement, il a mis en nous la raison, et nous voici parés pour la vie comme pour l'au-delà. Mais à partir du moment où l'on s'interroge sur une origine autre que divine de l'être humain, le problème apparaît. Comment acquiert-on l'intelligence si ce n'est pas Dieu qui l'a mise en nous ? Avec Locke, avec Condillac, avec Hume, l'empirisme et le sensualisme apportent des réponses. L'esprit est formé par nos sensations, qui sont à l'origine de toutes nos connaissances, ainsi que des facultés qui nous permettent de traiter ces connaissances. Dans le traité des sensations, Condillac montre comment une statue dotée des seules sensations s'est rendue capable de toutes les opérations de l'entendement, à savoir l'attention, la mémoire, la comparaison, le jugement, la reconnaissance. Et comme chez Hume, qui lui emploie le terme « understanding », le terme d'entendement est encore employé chez Condillac, maintenant ainsi le dialogue avec la philosophie antérieure. Mais à la fin du XVIIIe siècle, ce terme d'intelligence est de plus en plus employé dans la même acception, entérinant ainsi le caractère fondamentalement relationnel et transitif de cette faculté mentale. Et du reste, cette évolution coïncide aussi avec une naturalisation du concept. La faculté d'intelligence n'intéresse plus seulement les philosophes, mais aussi les biologistes et les naturalistes, qui l'envisagent comme une capacité commune à l'être humain et aux animaux. On l'a rappelé ce matin, Aristote déjà affirmait l'existence de plusieurs âmes végétatives, sensitives et intellectives, que l'être humain, lui, les possède toutes. Mais l'idée d'une continuité de l'intelligence à travers le vivant parcourt un long chemin avant de s'imposer scientifiquement, par exemple avec les travaux de Jean Piaget, en particulier dans ses leçons du Collège de France, rassemblées sous le titre « La psychologie de l'intelligence » en 1947. Mais en fait, au départ, au XVIIe, XVIIIe, on hésite d'abord à employer le terme d'intelligence. Dans le discours à Madame de la Sablière, qui clôt le 9e livre des fables en 1678, La Fontaine défend, contre la thèse cartésienne de l'animal-machine, l'idée d'une intelligence animale spécifique. Et s'il réserve, selon ses propres termes, ce qu'il appelle le principe intelligent à l'être humain, malgré tout, La Fontaine dit qu'il faut admettre l'existence chez les animaux de quelque chose que La Fontaine précisément ne nomme pas, un esprit, une âme, une capacité de réflexion. Et il faudrait regarder ce texte, un jour je vais faire l'explication de texte ici, mais de façon remarquable, tout l'exercice de ce discours à Madame de la Sablière, qui est un texte très important, consiste à parler de cette capacité de réflexion dont bénéficient les animaux, sans jamais lui donner de nom, de manière à ne pas tomber dans des débats métaphysiques ou théologiques qui préempteraient la discussion. Il faut s'abstenir de nommer afin de pouvoir mieux affirmer l'existence de cette intelligence animale que, malgré tout, l'expérience est obligée de constater. Pour Lamarck, les termes d'entendement et d'intelligence, oui, c'est ça, les termes d'entendement et d'intelligence sont strictement synonymes. Sous la dénomination d'entendement ou d'intelligence, je comprends toutes les facultés intellectuelles connues, telles que celles de pouvoir se former des idées de différents ordres, etc. etc. Mais en fait, quand on regarde le texte lui-même, de sa philosophie zoologique en 1809, on voit qu'il accorde sa préférence au terme d'intelligence. C'est un terme qu'il emploie deux fois plus souvent que le terme d'entendement. C'est en effet le terme d'intelligence qui, par son caractère concret et relationnel, j'y reviens, je le souligne, permet le mieux de marquer la continuité d'une même capacité entre les différents êtres vivants. C'est la troisième citation. D'après ces considérations, la faculté d'exécuter des actes d'intelligence ne commence guère qu'aux poissons, ou tout au plus qu'aux mollusques céphalopodes. Elle est alors dans sa plus grande imperfection. Elle a fait quelques progrès de développement dans les reptiles, et puis les oiseaux, et puis les mammifères, etc. Bref, le problème moderne de l'intelligence naît à partir du moment où l'on considère que l'intelligence est extensive au règne animal et qu'elle n'est pas un fait spécifiquement humain. Désormais, on parle du reste d'intelligence humaine, ce qui signifie qu'elle peut ne pas l'être. Et paradoxalement, il a fallu sortir du paradigme cartésien de l'animal-machine pour que l'intelligence devienne une propriété indépendante de l'humain jusqu'à devenir finalement, on le voit aujourd'hui, applicable même aux machines. Mais le paradoxe peut-être n'est pas si grand si l'on considère que l'animal-machine cartésien était déjà, en quelque sorte, une intelligence artificielle, sauf qu'on lui refusait le terme même d'intelligence. Alors, la question philosophique centrale devient alors celle de la manière dont naissent les idées. La problématique parcourt le XIXe siècle et donne naissance à un mouvement, en France en tout cas, d'obédience matérialiste, les idéologues, dont l'un des fondateurs, avec Cabanis, Destut de Tracy, publie en 1817 des principes logiques ou recueils de faits relatifs à l'intelligence humaine. Et 50 ans plus tard, en 1870, avec sa somme colossale de l'intelligence, que j'ai déjà citée au départ, véritable encyclopédie psychologique du XIXe siècle, qui est une véritable théorie totale de la connaissance et de l'esprit humain, Théotène va rendre compte de la production des images, des signes, du langage et de la logique, et il va s'inscrire encore dans cette lignée matérialiste en montrant comment l'esprit construit la réalité à partir des sensations et surtout comment l'intelligence peut se définir en tant que faculté de correction des erreurs, quelque chose qui est assez intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Je crois qu'une problématique est caractéristique d'une époque quand tous les camps s'en saisissent, quelle que soit leur orientation philosophique. Le plus remarquable avec la question de l'intelligence est que même un philosophe spiritualiste comme Pierre Laromiguière est obligé d'en passer par le vocabulaire naturaliste de l'intelligence pour exposer des conceptions qui diffèrent pourtant dans ses leçons de philosophie sur les principes de l'intelligence ou sur les causes et les origines des idées. On est en 1826. Beaucoup moins connu, quelqu'un que j'ai découvert, là, que je trouve vraiment intéressant, dont je recommande la lecture, c'est Pierre Doublet, qui publie en 1856 une histoire de l'intelligence, une histoire de la genèse individuelle de la pensée, il s'entend, où la description précise et concrète, très littéraire, des perceptions physiques, celle des sensations du narrateur sur une colline de la ville de Grasse, par exemple, le dos, je cite, le dos mollement appuyé contre des touffes de thym et de myrte, et la main gauche appliquée sur l'écorce d'un pin, et vous avez des passages comme ça sur plein de pages, hein, c'est assez admirable, tout ça dans un tourbillon de senteurs et de perceptions visuelles et tactiles, tout ça semble annoncer les analyses phénoménologiques qui se développeront au siècle suivant. Donc j'invite à lire Pierre Doublet, qui peut-être mériterait d'être découvert ou redécouvert, je ne sais pas. Si l'intelligence est une production naturelle, il doit être possible de la modifier, de l'améliorer ou de la parfaire. Tel est le grand projet du médecin Louis-Joseph Marie Robert, auteur en 1801 d'un essai sur la mégalanthropogénésie, ou l'art de faire des enfants d'esprit qui deviennent des grands hommes. Il récidive 2 ans plus tard, en 1803, dans une thèse présentée à la faculté de médecine de Paris, « Existe-t-il un art physico-médical pour augmenter l'intelligence de l'homme en perfectionnant ses organes, où la mégalanthropogénésie n'est-elle qu'une erreur ?» Comment accroître l'intelligence, hein ? La méthode est simple. La mégalanthropogénésie, c'est la science de produire des grands hommes. Hein, vous l'avez compris. La méthode est simple pour accroître l'intelligence. Il s'agit de marier entre eux les gens intelligents pour améliorer les qualités héréditaires de leurs descendants. Bon, c'est la deuxième citation. Il faut marier un homme d'esprit avec une femme d'esprit. Et ainsi, il est plus que probable que leurs enfants ne seraient ni idiots ni imbéciles. Du reste, il s'agit d'appliquer à l'ordre social, nous dit Robert dans la citation, ce qui existe déjà dans l'économie rurale, ce que font déjà les agriculteurs avec les animaux. Il n'est pas le premier à l'avoir dit, hein, d'autres l'avaient précédé. Mais il propose, outre l'application de ces méthodes d'élevage agricole à la société, Robert propose des conseils plus originaux, que je ne peux pas m'empêcher de vous donner. Le moment de la conception importe, et puisque l'expérience montre que les enfants illégitimes ont plus d'esprit et de sagacité que les autres, hein, je le cite, en raison de la ferveur qu'apportent les parents dans la copulation, eh bien, il faut généraliser, c'est ma dernière citation de Robert, alors ça je l'ai dit en entier, « Je pense que chaque père, jaloux de voir son fils, digne héritier de son talent, ne doit approcher son épouse qu'après avoir allumé son imagination au flambeau de son génie. Ainsi, le guerrier, le poète, l'orateur, les musiciens auront des enfants qui deviendront leurs émules si, après une bataille, une tragédie, un panégyrique, un tableau, une symphonie, ils ne laissent point refroidir leur sens avant de payer leur tribut à l'amour. » Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire en sortant du colloque. Alors, les idées de Robert parurent si absurdes ou audacieuses qu'un vaudeville en fit la satire en 1807, l'île de la mégalanthropogénésie ou les savants de naissance. Pourtant, ces élucubrations eugénistes, où l'on retrouve l'inspiration de la régénération révolutionnaire, s'inscrivent dans un mouvement plus général de réflexion sur l'évolution historique de l'intelligence humaine. La naturalisation de l'intelligence, couplée aux théories de l'évolution alors en plein développement, autorise à faire alors de l'intelligence une propriété non seulement des individus, mais de l'humanité dans son ensemble, comme du reste des diverses sociétés humaines envisagées chacune dans sa singularité. Bon, je cite en passant ce livre de Defimovich, peu connu, mais qui mérite de pas être non plus très connu, et je passe plutôt au cours de philosophie positive d'Auguste Comte en 1830, qui entreprend de faire l'histoire de l'intelligence humaine envisagée comme une capacité collective et sociale. Comte définit ainsi trois états de l'intelligence correspondant à trois états théoriques différents, l'état théologique ou fictif, l'état métaphysique ou abstrait, l'état scientifique ou positif. Alors ces états, en fait, qui sont observables dans le développement de toute connaissance humaine, reproduisent exactement, selon Comte, le développement de l'intelligence individuelle, dans la mesure où ces diverses phases, en fait, de l'éducation de l'espèce reflètent aussi celle de l'éducation de l'individu, et c'est la citation que vous avez ici. En fait, chacun de nous, en contemplant sa propre histoire, ne se souvient-il pas qu'il a été successivement, quant à ses notions les plus importantes, théologien dans son enfance, métaphysicien dans sa jeunesse et physicien dans sa virilité. Alors, une telle homologie entre le développement de l'individu et celui de la société est caractéristique de ce que permet le concept d'intelligence. L'intelligence n'est pas seulement une propriété individuelle et personnelle. Si elle existe au niveau collectif, c'est qu'elle est aussi de nature impersonnelle. Elle n'est pas purement qualitative, on peut la mesurer. Et là, je vais alors, pour le coup, c'est juste une page de photo, où cousin de Darwin, dont il défend la théorie de l'évolution, Francis Galton développe les premières mesures de capacité mentale, qui sont ensuite perfectionnées par Sperman, j'en ai déjà parlé. Alfred Binet et Théodore Simon introduisent la notion d'âge mental, et William Stern définit le quotient intellectuel, le QI, comme le rapport entre l'âge mental et l'âge réel. Donc, il y a eu toute une entreprise scientifique de mesure de l'intelligence. Je cite ça tout à fait en passant. Je vous renvoie, si vous voulez, un petit sommaire de ça, très bien fait, au livre « Que sais-je » d'Olivier Houdet sur l'intelligence, avant que ne paraissent les actes de notre magnifique colloque. Or, si l'intelligence des individus est variable, grande est la tentation d'évaluer de la même manière l'intelligence d'une société donnée. Lorsque Charles Maurras publie en 1905 « L'avenir de l'intelligence », Maurras prend soin de préciser dès le départ qu'il entend ce terme dans le sens russe « d'intelligentsia », c'est-à-dire comme la corporation des gens de lettres et des intellectuels. Il s'agit du sens métonymique d'intelligence, mais pris dans une acception collective. Comme là, voilà, c'est l'ensemble de ceux qui font métier de leur intellect et de leur esprit. Et le livre de Maurras dresse le tableau de l'asservissement des intellectuels à l'État, au pouvoir de la finance et aux idées révolutionnaires. Pourtant, lorsque Maurras, qui est aussi un grand lecteur d'Auguste Comte, comme vous voyez ici aussi, en appelle à un sursaut de l'intelligence française, de l'intelligence nationale, comme il dit, exhortant les intellectuels à se saisir des idéaux de la contre-révolution, on ne peut s'empêcher de voir dans cette intelligence dont il parle, non pas seulement une corporation, mais aussi une faculté générale de la société, envisagée comme une personne. Et cette ambiguïté, elle disparaît chez un disciple de Maurras, Henri Massy, où là, parce que c'est bien à l'intelligence en tant que faculté mentale qu'en appelle Henri Massy dans son manifeste pour un parti de l'intelligence, publié dans le Figaro le 19 juillet 1919, signé par un large éventail d'intellectuels de droite et d'extrême droite, en réponse à la déclaration de l'indépendance de l'esprit, publiée par Romain Rolland dans l'Humanité le 26 juin 1919, et qui avait été signée entre autres par Einstein, par Russell, par Zweig, par Clocher, excusez du peu. Le parti de l'intelligence, dit Henri Massy, c'est celui que nous prétendons servir pour l'opposer à ce bolchevisme qui, dès l'abord, s'attaque à l'esprit et à la culture afin de mieux détruire la société, nation, famille, individu. En août de la même année, 1919, Valéry publie dans la Nouvelle Revue Française « La crise de l'esprit » qui envisage les conséquences périlleuses de la perte du privilège européen de l'intelligence, c'est-à-dire ici du savoir et de la science, au profit du reste du monde. Et Valéry donnera en 1935 un « bilan de l'intelligence » où sa dénonciation des effets de la modernité sur l'esprit et la culture n'a pas pris une ride. Tout ça pour vous dire que, dans ces années-là, l'intelligence est devenue un enjeu de bataille politique. Dans La trahison des clercs, en 1927, Julien Binda reproche à l'Action française de vouloir asservir l'intelligence à l'ordre social et un nationalisme étroit. On parle, dit-il, d'intelligence française, de sensibilité française, de philosophie française, quand au même moment, de l'autre côté du Rhin, on veut promouvoir la pensée arienne, la peinture arienne, la musique arienne. Et en 1930, est fondée l'Union rationaliste, sous l'impulsion notamment de Paul Langevin, pour défendre la science, lutter contre l'irrationalisme et combattre les courants conservateurs catholiques. Intelligence, esprit, raison. Les trois termes dessinent le champ d'une bataille âprement disputée dans l'entre-deux-guerres. Si le terme d'intelligence a été largement privilégié par l'extrême droite, la raison est plutôt connotée à gauche, tandis que l'esprit se situe dans une relative neutralité. Mais, cela dit, la fluidité est très grande entre les termes et les connotations, il ne faudrait pas non plus durcir exagérément ces connotations. Je conclue. Oui, et puis je renvoie aussi à l'excellent livre récemment paru de Zakir Paul, justement sur ces débats sur l'intelligence, un Disarming Intelligence, sur ces sujets-là. Je conclue donc, le terme d'intelligence a pris une place de plus en plus importante au fil du XIXe siècle dans la réflexion anthropologique et philosophique européenne. En raison de sa nature relationnelle et concrète, il s'est imposé dans le lexique des naturalistes contre des concurrents tels que l'esprit, l'entendement, chargé d'une trop lourde histoire philosophique, et parce qu'il permettait de rattacher l'être humain à la problématique générale du règne animal. L'intelligence a autorisé une double homologie entre l'homme et l'animal, d'une part, et entre l'individu et l'espèce, d'autre part. Le concept a concouru à une biologisation et une naturalisation de la réflexion historique. Et par le biais des théories de l'intelligence, ce concept, ce terme, instaure une dialectique entre l'individu et le collectif et sert à justifier des pratiques eugénistes. Et il prend, comme vous l'avez vu, au XXe siècle, une dimension et des connotations politiques. Toute entreprise scientifique de dépersonnalisation et de formalisation du problème de l'intelligence, qui a été poursuivie au XIXe et au début du XXe siècle, a ouvert la voie aux théories de l'intelligence artificielle. On a déjà vu un aspect précédemment. Si la fabrique de l'intelligence n'a plus de secret, si l'intelligence peut être analysée comme une machine dotée de diverses fonctions, alors il n'est en principe plus besoin d'un être humain pour assurer ces fonctions. Les statuts de Condillac, qui construit elle-même progressivement son propre entendement à partir des données qui lui parviennent de l'extérieur, peut être vu en quelque sorte comme un premier modèle d'intelligence artificielle. En 1941, dans son cours du Collège de France, Valéry posait que la perfection du travail intellectuel, poétique et artistique ne saurait être atteinte que dans une complète impersonnalité. Et loin de toute intervention de l'individu en tant que personne. Cette œuvre parfaite, créée par une sorte de monstre, il emploie ce terme de opus monstri, œuvre d'un monstre, pourquoi n'en pas confier la réalisation, dit-il, à un automate idéal qui, à tout coup, gagnerait. 80 ans plus tard, la question qu'il formulait de manière encore purement théorique se pose à nous, désormais, de façon concrète. Merci.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.